Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Une cigarette, c'est du feu d'un côté et un imbécile de l'autre. La phrase est d'Horace Greeley, homme politique et éditeur américain, fondateur de New York Tribune. Elle se trouve page 82 de l'album de bande dessinée que viennent de publier nos deux invités, le scénariste Pierre Boisserie et le dessinateur Stéphane Brangier. Une enquête graphique implacable, précise, fouillée, un ouvrage qui regorge d'informations historiques, économiques, environnementales, médicales et scientifiques, mais aussi un récit plein d'humour qui se lit comme un thriller et qui nous fait pénétrer dans les pensées, les arrière-pensées, les jeux tactiques ou stratégiques de l'industrie du tabac, sans doute une des plus lucratives de tous les temps et peut-être aussi, si l'on en croit les auteurs, une des plus meurtrières, menteuses et manipulatrices de tous les temps. Cigarette, le dossier sans filtre, est paru aux éditions d'Argo et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
C'est pas moi qui ai toussé.
Voilà, non, c'est pas vous, effectivement. Alors, dites-moi franchement, justement, combien de paquets de cigarettes ont été nécessaires à l'élaboration de cet album ?
En fait, zéro, c'est pas compliqué. Moi, je fumais un tout petit peu des cigarillos et un petit peu de cigares quand j'étais en bonne société, après un repas ou autre. Mais alors, du coup, là, ça y est, je suis complètement vacciné sur... à l'encontre de quelque forme de tabac que ce soit. Donc,
bon, et vous, Stéphane Brangier
Moi, j'ai arrêté de commencer.
D'accord.
J'ai commencé à un âge tardif, vers la trentaine, et j'ai toujours été qu'un fumeur occasionnel. J'ai laissé tomber depuis plusieurs années. Et maintenant, je sais pourquoi.
D'accord, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on lit l'album, bon, déjà, on est terrifié dans un premier temps, mais on se dit aussi qu'on a peut-être affaire à des fumeurs repentis, parce que vous expliquez quand même, d'un bout à l'autre de cet album, que le fumeur, c'est une victime, quoi. C'est un manipulé.
Alors, c'est un manipulé. Disons, c'est quelqu'un à qui on a ouvert grand la voie de la cigarette et... En lui faisant croire que la cigarette allait lui donner des attitudes très positives, allait lui donner des sentiments de liberté, d'indépendance formidables, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Et en face, il y a un grand méchant. Le grand méchant, c'est l'industrie, le lobby du tabac, qui est personnifié dans l'album par un personnage qui s'appelle Monsieur Nico. Vous aviez besoin d'un narrateur, Pierre Boisserie ?
Oui, ça nous permet, dans un album de bande dessinée, ça permet d'avoir un repère graphique tout au long de l'album qui va esquisser des thématiques tout à fait différentes tout au long de l'album. Donc ça permet d'avoir le fil conducteur comme un guide qui va vous promener dans cette espèce de musée des horreurs de la cigarette.
Oui, et la grande force narrative de l'album, c'est que ce guide, c'est un porte-parole de l'industrie du tabac.
Quoi. Bah, bien sûr, sinon c'est pas rigolo.
Oui, avec un cynisme absolument incroyable. Alors, on ne sait jamais s'il est au premier, au deuxième ou au troisième degré. Ça dépend d'ailleurs des
oui,
cas.
Oui, bien sûr, mais en fait, on s'est servi pas mal des cigarette papers qui ont été publiés, tous les documents de l'industrie qui ont été publiés dans les années 90, où là, on trouve des documents internes d'un cynisme absolument incroyable. Et avec le personnage de Mr. Nico, on a fait que refléter cet état d'esprit.
Alors que Monsieur Nico, Mr. Nico, c'est un lointain descendant de Jean Nico, avec un T, hein, celui-là. Donc c'est le diplomate français qui était en poste au Portugal et qui a importé, si j'ose dire, le tabac en France, qui a donné son nom à la nicotine, qui est, pour faire simple, l'élément addictif.
Exactement.
Majeur
c'est ce qui déclenche l'addiction à la cigarette.
Oui, et votre Nico à vous, c'est donc un personnage très intelligent, très cultivé. Il sait absolument tout de l'histoire du tabac. Il a un vrai sens de la psychologie, hein, aussi de la psychologie humaine. Ça, c'est peut-être, Pierre Boisserie, le grand atout finalement des cigarettiers.
Oui, c'est le grand atout des cigarettiers, c'est même plus que la psychologie, c'est la psychanalyse, puisque celui qui a mis en place toutes les techniques de marketing, de lobbying et de vente, s'appelle Édouard Bernays, qui était le double neveu de Freud, par son père et par sa mère, et qui a appliqué toutes les bonnes recettes de tonton Sigmund à ses techniques de marketing qu'il a créées, puisque c'est quasiment lui qui a inventé toutes les techniques de marketing modernes qui sont encore à la mode aujourd'hui.
Oui, et graphiquement parlant, alors je ne sais pas si Monsieur Nico est un homme de marketing, en tout cas vous le dessinez, Stéphane Brangier, aussi noir que son humour, hein, en tout cas du point de vue du costume, il y a un petit côté Man in Black, dans le personnage de Nico en costume cravate noire.
Il a un côté, son costume et son apparence, c'est, si j'ose dire, le monsieur gris par excellence. Quoi. C'est le type sans aucun état d'âme qui se pointe dans une grande entreprise avec son tableau Excel et son petit attaché caisse pour liquider 1200 emplois sans aucun problème. Il peut être interchangeable. Son apparence physique aussi.
Donc il est chauve. Pourquoi il est chauve?
Il est chauve.
Le manipulateur est chauve en bande dessinée.
On doit bien pouvoir trouver quelques exemples. Il est, je le voulais le moins perméable possible aux normes, sachant qu'on allait le balader dans toutes les époques depuis Christophe Colomb jusqu'à aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que le cheveu est un élément de temporel très important.
Exactement. Ouais. Alors et le costume trois pièces, tout à fait adapté aussi.
Voilà. Avec un teint alors alternativement grisâtre, jaunâtre, parfois un peu verdâtre.
Alors ça c'est la mise en couleur, mais au-delà de ça, le style graphique qui permet en bande dessinée de s'autoriser des libertés, qui permet de le déformer, il peut même prendre une tête de mort quand il devient machiavélique, etc. Ça c'est ce qui permet d'exacerber et de rendre fluide et intéressante la lecture. Donc c'est une sorte de pâte à modeler, Mister Nico. On peut faire ce qu'on veut.
Voilà, et c'est lui qui va faire rentrer le lecteur dans cette enquête, je le disais, extrêmement fouillée, précise, détaillée. Alors, vous listez toute votre documentation à la fin de l'album, Pierre Boisserie. En fait, vous avez incurgité énormément de papier.
Oui.
Pas de papier à cigarettes, mais beaucoup de papier en tout genre, pas mal d'honnêtes aussi quand même.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, je le reconnais humblement à la fin de ma bibliographie. J'ai passé pas mal de temps sur Internet aussi. Le truc, c'est que toute la documentation la plus intéressante et la plus riche, c'était surtout des bouquins plus ou moins universitaires parus aux États-Unis. Donc, il a fallu ingurgiter tout ça et en ressortir quelque chose en anglais. Oui, oui. Et il a fallu en ressortir quelque chose de beaucoup plus ludique et de beaucoup plus accessible au plus grand nombre, parce que c'est vrai qu'il y a le bouquin de départ sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Golden Holocaust de Robert Proctor. C'est un bouquin quasi universitaire et qui était vraiment un pavé à s'ingurgiter. Faut vraiment avoir le moral pour se taper le truc. Donc, il y avait toute la matière. Fallait faire beaucoup de tri dans la matière et puis voir les informations qui pouvaient être traitées sous forme de bande dessinée et puis après articuler un récit par rapport à ça et un fil rouge tout au long de l'album.
Oui, Golden Holocaust, hein, c'est le titre que vous venez de citer. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que les documents que vous avez choisis sont des documents à charge. Pierre Boisserie, est-ce que c'est une enquête ou bien est-ce que c'est un acte d'accusation que cet album?
Non, mais je n'ai fait que reprendre des documents, des faits qui ont été avérés, qui ont été jugés. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire quasiment le livre inverse en ne prenant que tous les documents qui ont été falsifiés, truqués par Big Tobacco, c'est le petit nom affectueux qu'on donne à l'industrie de la cigarette aux États-Unis. Donc on aurait pu prendre tout ce qu'ils ont publié eux depuis les années 50 et puis
Mais vous vous êtes intéressé justement à cette somme-là en essayant d'entrer aussi dans leur logique.
Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que quand on trouve ces documents-là et qu'on trouve les sources de ces documents-là, on trouve des correspondances internes disant bon on va raconter ça parce que ça va nous permettre de faire passer la pilule et de masquer ce qu'on est en train de faire réellement.
Oui, c'est-à-dire que le cartel du tabac, c'est réellement du mensonge, de la manipulation, à cause tout simplement de l'appétit de lucre. Quoi. L'idée, c'est de gagner de l'argent, d'en gagner de plus en plus, et peu importe les impératifs de santé.
Voilà, exactement. De toute façon, ils savent depuis, pas le tout début, mais ils savent depuis, on va dire, depuis les années 30, et a fortiori, et de façon certaine depuis les années 50, que leur produit est nocif et dangereux, et tue la moitié, au moins la moitié, de leurs consommateurs réguliers. Donc, au début des années 50, ils ont eu le choix, soit de reconnaître que leur produit était nocif, et à ce moment-là, leur business s'écroulait, soit de tout faire pour masquer la nocivité de leur produit, et de reculer l'échéance le plus longtemps possible, et pendant ce temps-là, de faire le maximum de pognon.
Et c'est là qu'on trouve les figures de rhétorique admirables, qui consiste à renvoyer la faute sur le consommateur lui-même, puisque grosso modo c'est une liberté de fumer, par conséquent vous assumez les conséquences.
Il faut prendre ses responsabilités.
Exactement.
Ouais, donc ça effectivement ça fait partie de tout le plaidoyer du lobby du tabac, qui a mis d'ailleurs des scientifiques, des médecins aussi au service de cette cause.
Oui, ils avaient même monté une structure qui s'appelait le Centre d'information sur le tabac, enfin qui a eu plusieurs noms, mais c'était un centre d'information sur le tabac où ils publiaient régulièrement des rapports et des dossiers écrits par d'éminents scientifiques qui disaient que Oui, éventuellement, c'était peut-être le tabac, mais rien ne le prouvait vraiment. Et puis, c'était peut-être aussi la pollution atmosphérique, c'était peut-être le goudron sur les routes. Et puis, bon, voilà, rien n'était sûr.
Mais ce que vous sous-entendez quand même dans l'album, Pierre Boistry, c'est que ces scientifiques-là ont été achetés.
Bah, bien sûr, oui. En tant que scientifique, quand vous avez des certitudes et que vous écrivez le contraire, il n'y a pas de mystère.
Mais vous n'avez pas peur des procès? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens que vous avez dû penser, évidemment, à cette éventualité-là.
Non, mais une fois de plus, je n'ai fait que reprendre et réorganiser dans mon récit des choses qui ont déjà été publiées, jugées, et voilà. Donc, il n'y a rien. Finalement, dans notre album, on ne révèle rien d'extraordinaire. On s'est juste efforcé de présenter sous une nouvelle forme tout ce que tout le monde devrait savoir sur les cigarettes et l'industrie du tabac, mais ce sont tout un tas d'informations auxquelles on n'a pas accès. Donc le but, c'était, à la limite, le but, c'était pas de faire cet album pour empêcher les gens de fumer, c'est plutôt, on a fait cet album pour que les fumeurs sachent pourquoi ils fument réellement, après à eux d'en tirer les conséquences.
Fume cette cigarette. Fume cette cigarette. Et j'entends sa voix me dire, elle revient en souvenir. Pour devenir un homme, fume cette cigarette.
Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit.
Je fume pour oublier que tu bois. Je fais comme chez moi. J'envoie la fumée sur un poster de toi. La vie c'est
Je suis amoureux d'une cigarette. Sans elle, j'ai l'air d'un poussin cherchant son omelette. Et Susan, si te reste un peu de pognon, ramène-moi donc un paquet de blonds.
Car je suis une cigarette. Je me consume des pieds jusqu'à la tête. Et je prie pour que ça s'arrête à la dernière allumette. Je craque.
Eddie Mitchell, Brigitte Fontaine, Alain Bachung, Jacques Higelin et M qui chantent La Cigarette dans VMDN sur RFI pour illustrer musicalement parlant cette enquête en BD signée Boisserie et Brangier Cigarette, le dossier sans filtre paru aux éditions d'Argo. Alors vous connaissez bien hein, tous les deux, vous avez travaillé ensemble notamment sur plusieurs épisodes de La Croix de Cazenac avec Eric Stalner, une série d'aventures hein, qui combine espionnage et chamanisme, et puis sur aussi La Banque, hein, qui était déjà une histoire de gros sous. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce point d'ailleurs, Pierre Boistry, dans l'économie, dans l'idée de décortiquer comme ça les arcanes de tout ce qui entoure l'argent.
Mais en fait, toute cette histoire remonte à ma série précédente, Dantès, que j'avais coécrite avec Philippe Guillaume, qui se trouve être l'ancien chef du service financier des Échos.
Donc le premier quotidien économique français.
Économique français. Et donc j'avais cette idée d'écrire une histoire d'un Monte Cristo moderne dans les milieux de la finance. Et à l'époque, je m'étais inspiré de l'histoire de Nick Leeson, qui était un trader britannique qui avait fait couler la Barings au début des années 90, en Asie. Et donc, je ne connaissais rien à l'économie à l'époque. J'ai rencontré Philippe Guillaume qui m'a dit « Mais je vais t'aider, on va faire le scénario ensemble. » C'est ce qui s'est fait. Et le coup de bol, c'est qu'on est sorti 6 mois avant l'affaire Kerviel. Donc, on a eu une super résonance, puisqu'on racontait, finalement, c'était le même mécanisme que l'affaire Kerviel, sauf que notre personnage, le Dantès, était un Kerviel Dantès, c'est-à-dire qu'il était manipulé et pris comme accusé à tort, et il est emprisonné, il sortait pour se venger. Donc, à partir de là, on a commencé à travailler sur des thématiques économiques, et puis, naturellement, comme je suis un super gros fan de saga familiale, c'est devenu assez naturel de se dire, et si on faisait une saga familiale dans les milieu bancaire. Donc on a imaginé La Banque, qui est donc une saga familiale qui se déroule entre 1815 Waterloo et 1914, sur 3 générations, il y a 6 albums.
Donc il y a l'économie et puis il y a aussi le tabac quand même, parce qu'il y a aussi Flore de Luna avec Eric Lambert, donc ça se passe à Cuba, et puis bon, il y a quand même pas mal de Havane quand même.
Oui, il y a pas mal de Havane. Alors là, c'était une commande de Jacques Glénat, mon éditeur, qui est un grand amateur de cigares, et qui voulait justement une saga familiale dans les milieux du cigare à la Havane. À cette occasion, et par conscience professionnelle pure, je me suis mis à fumer quelques cigares.
C'est pour ça, vous étiez obligé.
J'étais obligé, voilà, j'ai pas eu le choix, oui. Sinon, voilà. Et donc j'ai appris à connaître le cigare et à déguster le cigare et tout, mais pas plus qu'un bon cognac, c'est-à-dire j'en bois pas tous les jours non plus. Et voilà, c'est une belle aventure aussi, j'ai appris plein de choses.
Et donc l'argent, le tabac, et donc logiquement, effectivement, ce nouvel album, c'est quoi l'élément déclencheur là ? Qu'est-ce qui vous...
Alors l'élément déclencheur, c'est justement un article que j'avais lu sur le livre de Robert Proctor, là, sur Golden Holocaust, un article qui était paru, alors je sais plus si c'était dans Vanity Fair ou dans le Huffington Post, peu importe, et je lis cet article, et le lendemain, je vais chez Dargo, mon autre éditeur, et je commence à discuter avec Philippe Osterman, qui était alors le directeur éditorial, et qui venait de se remettre à fumer. Ben, je lui dis, t'es couillon, parce que j'ai lu hier dans un article que blablabla, blablabla. Bla, bla,
c'est comme ça qu'on parle à nos éditeurs. Oui. Voilà, t'es couillon, ce genre de choses.
Et puis, je lui raconte un peu tout ce que j'ai lu dans l'article. Il me dit, mais c'est un super sujet, creuse ça, et puis vois ce qu'on peut en faire. Il y a sûrement un truc à faire, ça n'a jamais été fait en BD, voilà.
Et il a tout de suite arrêté de fumer.
Pas du tout, il est parti vivre en Australie.
Voilà. Alors, la partie historique de l'album est vraiment passionnante, elle est vraiment très, très, très dense aussi. Donc, vous rappelez que c'est Christophe Colomb, hein, qui fait découvrir le tabac aux Européens à son retour du Nouveau Monde. Donc, on a parlé tout à l'heure de Jean Nicot, et vous expliquez aussi, et on l'ignore peut-être, en y réfléchissant, ça semble évident, mais pas tant que ça en réalité, que le succès du tabac, ça a aussi joué un rôle dans le développement de l'esclavage. C'est-à-dire, ça marchait tellement bien qu'il fallait que les plantations tournent en quelque sorte.
Voilà, exactement. Bah, avec les autres planteurs américains, il y a un moment, ils se sont retrouvés coincés. Ils n'avaient pas assez de main d'œuvre parce qu'il n'y avait pas assez de migrants européens qui arrivaient. Et puis en plus, ça coûtait cher, hein, faut pas abuser non plus. Donc, ils ont eu la merveilleuse idée de faire travailler les esclaves qui ont commencé en même temps dans le tabac et dans les champs de coton.
Et c'est un esclave qui s'appelle Steven qui... il a fait une bêtise, hein, pour le coup. voilà. D'ailleurs, je crois que le mot couillon que Stéphane Branger vient d'utiliser est aussi utilisé par votre personnage de Monsieur Nico à son sujet. Comme souvent dans l'histoire, c'est les petites bêtises qui font progresser. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut parler de progrès.
Ah bah si,
pour l'industrie du tabac, oui.
Oui, pour l'industrie du tabac, ça a été un progrès énorme, puisque avant cette bévue qu'on va raconter après, la cigarette et le tabac que vous fumiez sous forme de cigare ou de pipe, vous ne pouviez pas l'inhaler parce que c'était trop âcre, ça abîmait vraiment trop la gorge, parce que c'était séché naturellement. Et puis, cet esclave fait une bêtise, il oublie d'entretenir le feu de bois, et pour se rattraper, il balance du charbon dedans, et il fait que les feuilles de tabac se mettent à sécher différemment, beaucoup plus vite, ce qui libère le sucre contenu dans la feuille de tabac, rend la fumée beaucoup plus douce, et ça n'est qu'à partir de là que les fumeurs ont pu avaler la fumée, la répandre dans les poumons, ce qui a eu pour effet d'augmenter la surface d'imprégnation de la nicotine dans le corps, avec un effet qui a été décuplé et une accoutumance qui a été multipliée par je ne sais plus combien, puisqu'on est passé de la taille d'une gorge à la taille d'un terrain de tennis.
Et puis le goût sucré, ça rend aussi la cigarette plus agréable pour le fumeur. Mais le plus grand adjuvant de la popularisation finalement du tabac, c'est sans doute la guerre, hein, les guerres d'une façon générale. La cigarette devient un symbole de patriotisme, les soldats évidemment.
Pour aider nos petits gars.
On fait des collectes pour aider les petits gars, effectivement, comme vous dites. Donc, il y a énormément d'informations, on apprend vraiment beaucoup de choses dans cet album. Il y a énormément de chiffres, de dates, de données en tout genre, hein, économiques, sanitaires, sociales, historiques. Comment avez-vous travaillé, Pierre Boistry, pour bâtir un vrai récit de bande dessinée et pas en faire un cours magistral ou un pinceau ?
Eh ben, c'est là que tout le travail de Stéphane était utile, parce que en créant ce personnage de Mr Nico et en le faisant se balader comme un totem à travers toutes nos thématiques et toutes nos époques, ça nous permettait de disséquer notre récit en thématiques assez fortes sur l'histoire, la santé, la guerre, etc., etc. Et après, la narration de la BD sous forme de cases permet de bien segmenter notre récit. C'est-à-dire que le tout, c'est de pas mettre plus d'une information par case. Et puis, de temps en temps, de faire des respirations. Et puis, surtout, de trouver une fluidité et une linéarité dans le récit.
Alors, on l'a souvent dit dans cette émission, hein, Stéphane Branchier, un dessinateur de BD et un illustrateur, c'est pas la même chose. Le rapport entre les mots et les images est quand même très différent. Il se trouve que vous, vous avez les deux casquettes, puisque vous avez fait des bandes dessinées, récits, on va dire, un peu plus classiques. Vous avez aussi travaillé pour la pub, pour la presse, pour l'édition jeunesse aussi, donc en tant qu'illustrateur cette fois-ci. Et là, finalement, bah, on découvre aussi vos deux casquettes à travers cet album. Vous jouez sur les deux tableaux, l'illustration, donc le dessin en appui des mots, mais aussi un élément de narration.
J'ai toujours tendance à considérer que dessinateur et scénariste, c'est à peu près le même métier avec deux champs d'application différents. Alors, en gros, on raconte une histoire et en tant que dessinateur, le but c'est pas forcément de faire du dessin, c'est de raconter d'abord une histoire. Et je l'ai expérimenté spécifiquement pour ce bouquin-là, puisque il y a énormément d'informations. Vous l'avez dit, il faut que chaque case soit lisible de façon fluide, claire et extrêmement lisible. Donc j'ai expurgé le plus possible de mon dessin tous les éléments qui ne racontait rien de spécial dans une case, ce qui fait que au fur et à mesure, par exemple, s'il n'y a pas besoin de décor, je mets pas de décor. S'il y a besoin juste d'un personnage avec une expressivité très particulière, c'est ça qu'il faut travailler.
Travailler beaucoup sur les symboles aussi. Hein. Il y a beaucoup de balances, il y a beaucoup de dollars,
il y a beaucoup de licences graphiques,
beaucoup de billets, beaucoup de cigares. Enfin voilà, des petits objets, des petits détails comme ça, mais qui racontent en eux-mêmes toute une histoire.
C'est ça. Il y a beaucoup de licences graphiques qui ne sont exploitables que dans une bande dessinée et spécifiquement dans une bande dessinée. C'est pour ça que ce livre-là en bande dessinée a une portée, si ce n'est pédagogique, mais presque ludique, parce qu'on peut se permettre à peu près tout et n'importe quoi. L'expressivité, c'est vraiment la clé de voûte.
Et puis, il y a même un petit dessin un petit peu loufoque, bah, ça permet de faire respirer un petit peu tout ça, de relancer aussi l'intérêt du lecteur dans la case suivante. Alors, il se trouve qu'on le disait tout à l'heure avec Pierre Boisserie, hein, le lobby du tabac est aujourd'hui essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement américain. Et je trouve, moi, personnellement, que dans cet album, votre dessin, Stéphane Branchier, est aussi très américain.
Ah, c'est gentil.
Il y a quelques références aux comics, il y a quelques références aux super-héros, mais on est obligé de penser parfois à un Tex Avery.
Alors, il y a du Tex Avery, il y a du
Gottlieb.
Alors, notre référence,
c'est plus du Gottlieb, évidemment.
Ah oui, mais Gottlieb, qui a été notamment influencé par Tex Avery dans la deuxième partie de sa vie, ou par Will Elder aussi. Donc, Gottlieb est aussi l'enfant de cette BD comics américaine.
Absolument, si on regarde de façon un peu plus approfondie le dessin de Gottlieb, c'est un semi-réaliste qui est pas si éloigné, enfin qui est très loin du gros nez franco-belge, par exemple. Il a tout cet héritage-là. Moi, je suis allé chercher aussi beaucoup parmi les grands illustrateurs américains, Norman Rockwell, Hal Dorn, tous ces gens-là, qui avaient un sens de la classe, de la gestuelle et du dessin jeté rapidement auquel j'aspire, mais j'arrive à peine au talon, même pas à la cheville de ces gens-là, mais c'est vraiment une référence. Et dans la mesure où toutes ces avancées qu'on raconte dans l'industrie du tabac prennent leurs racines aux États-Unis, ça faisait sens.
Oui, mais il y avait beaucoup de cases hein, aussi qui sont des plongées, des contre-plongées. Donc il y a vraiment une narration très cinéma américain.
C'est quelque chose qu'on croise peut-être pas si couramment que ça dans le domaine du roman graphique en France. Mais c'est de là que je viens et c'est ce que je sais faire en gros. Donc j'ai essayé d'exploiter cette
qualité. Et ça donne tout de suite effectivement une rythmique parce que tous les personnages sont vraiment en mouvement. On surprend le lecteur et ça vient vraiment à l'appui du caractère un peu didactique et pédagogique de la formation.
C'est-à-dire que comme la masse d'informations à faire passer et on peut dire pourrait être indigeste si c'était raconté de façon plan-plan avec deux mecs assis autour d'un bureau ou sur un plateau de télé ou dans un studio radio, là ça permet d'animer tout ça et d'avoir à la fois du plaisir visuel, d'autant plus que le côté visuel était hyper important parce qu'il y a toute une iconographie développée par l'industrie du tabac elle-même à travers la publicité et tous les symboles qu'ils ont mis en place, qui était vraiment très importante et sur laquelle on s'est appuyé bien évidemment pour travailler.
Alors il y a beaucoup de dessins de fumeurs et de fumeuses évidemment dans l'album, et de ce point de vue le lecteur est pas franchement dépaysé car leurs yeux sont un peu habitués hein, depuis des lustres à fréquenter le cigare, la cigarette ou la pipe dans les œuvres de fiction, Amélie Beaucourt.
Un jour peut-être, Winston Churchill n'aura plus le droit de fumer ses gros cigares devant toute une salle de cinéma. Un jour peut-être, le commissaire Maigret devra trouver autre chose que deux bouffées de tabac tirées sur sa pipe pour s'occuper l'esprit. Un jour peut-être, les ados n'achèteront plus de cigarettes comme le héros de leur série préférée. Montrer le tabac, c'est quelque chose qui fait débat. Depuis 2017, lorsque la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé qu'elle ne voulait plus voir une cigarette à l'écran. Parce qu'il y en a trop, parce qu'il y en a partout et parce qu'il y en a toujours eu. Dès notre plus tendre enfance d'ailleurs, nos parents et nos grands-parents nous chantaient cette comptine inoffensive.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas.
Certes, tous les enfants qui l'ont apprise ne sont pas devenus des fumeurs, mais cette chanson reste, si on y réfléchit, une apologie du plus grand tueur en série de la planète. Surtout lorsqu'on sait que le jeune public est très influençable. C'est d'ailleurs pour ça que le cow-boy le plus célèbre de tous les temps est aujourd'hui non-fumeur. Lucky Luke est né avec une cigarette au bec, mais en 1983, son dessinateur, Maurice, se voit obligé de la remplacer par un brin d'herbe.
Ça faisait partie des clichés que j'essaye de parodier dans ma bande, voyez-vous. Je me souviens, Gary Cooper, quand il avait un moment, il se roulait une cigarette. Et c'est ça que j'ai voulu faire. J'étais réellement embêté, mais enfin... C'est vrai que l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève m'a donné une belle médaille pour me récompenser.
Dans la fiction, la cigarette participe aux clichés du personnage. Et ces clichés, il y en a un paquet. Fumer, c'est être viril comme Sylvester Stallone, être rebelle ou nonchalant comme James Dean, être une femme sensuelle comme Marilyn ou distinguée comme Audrey Hepburn, c'est être libre et insouciante comme Catherine Deneuve, c'est être un artiste provoque et borderline comme Gainsbourg ou un ado intello qui va boire des cafés en terrasse à Saint-Germain. Fumer, c'est cool, ou en tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. En 2010, un sketch de Gad Elmaleh met justement ce phénomène en lumière.
Alors mes copains, ils n'en reviennent pas, ils me demandent tous, ils me disent tous, mais comment t'as fait quoi? Nous, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'arrive pas, comment t'as fait? Je dis, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette? Il y a un mot, la volonté, ok? Parce que toutes vos conneries, genre, on va commencer...
Comment penser autrement quand le tabac est ancré dans notre imaginaire collectif depuis des siècles? Quand chaque support culturel met en scène des personnages qui fument, même les plus anciens. Molière en personne a ouvert l'une de ses pièces, Don Juan, en listant les vertus du tabac.
Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre.
Alors oui, Sganarelle n'est peut-être pas un personnage auquel les jeunes d'aujourd'hui veulent s'identifier, mais qu'aurait-il bien pu vanter d'autre? Si on y réfléchit bien, bannir le tabac de nos références culturelles n'est pas chose facile. Cruella d'Enfer des 101 Dalmatiens, par exemple. Aurait-elle été aussi démoniaque sans son grand fume-cigarette? Par quoi remplacerait-on la pipe de Sherlock Holmes? Que serait la fiche de Pulp Fiction sans la cigarette brûlante au bout des doigts d'Uma Thurman? Imagine-t-on James Bond avec une cigarette électronique et un jus de tomate? Et surtout, que chanterait le cœur brisé de Sylvie Vartan si elle n'avait pas pu dire ces mots?
Bon, et vous-même, Stéphane Brangier, il faut peut-être que vous payiez coupable, parce que sauf erreur de ma part, Lawrence Polsky, le détective que vous avez créé avec Didier Combard, il fume un petit peu.
À mort.
À mort.
Il fume à mort. Et il
mais c'est vrai qu'un héros de polar sans clope, c'est pas crédible.
Alors ça me pose un double problème, c'est que dorénavant, je suis un peu coincé. Je peux plus utiliser cet artifice qui est quand même redoutable. Et puis alors je dois répondre de Lawrence Polsky aussi. Mais alors ça pour le coup, dès le début du tout premier polka, il le dit lui-même, il dit entre la pollution et la cigarette, je me brûle à chaque fois, à chaque jour, une année de vie, je mourrai idiot.
Bon, d'accord. En tant que dessinateur, qu'est-ce que vous pensez justement de la disparition de la cigarette de Lucky Luke qu'Amélie évoquait à l'instant?
Oui, alors effectivement, c'est vrai, quand la cigarette a disparu du portrait de Lucky Luke, si j'ose dire, tout le monde a crié au scandale, qu'est-ce que c'est que ça, le bien pensant, etc.
Oui, c'est politiquement correct.
Le politiquement correct, aujourd'hui, c'est vrai, c'est relativement bien accepté, comme quoi les mentalités évoluent.
Et oui. C'est tout à fait logique de ne pas imposer aux enfants l'image d'un héros avec la clope au bec, et que ça, parce que c'est pas vrai que ça donne une attitude cool. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur l'image du héros de polar qu'on n'imagine pas sans cigarette, cette image a été créée de toutes pièces par toujours le même Édouard Bernays, qui avait rédigé un petit mémorandum sur la bonne utilisation de la cigarette dans les films et à la télé. Et tous ces codes d'attitude avec la cigarette ont été créés de toutes pièces par l'industrie de la cigarette.
Oui, vous expliquez très bien aussi dans l'album comment justement le tabac a infiltré l'industrie cinématographique hollywoodienne. Les grands acteurs américains ont pas mal aidé quand même. Hein.
Mais ils ont pas mal aidé, ils en sont beaucoup morts aussi.
Oui, voilà. Les grandes actrices aussi, hein, parce que les femmes aussi ont été parmi les cibles privilégiées de cet Édouard Bernays.
Oui, c'est-à-dire qu'Édouard Bernays, qui a émergé dans le monde de la publicité et de la communication après la Première Guerre mondiale, qui a mis sur place avec quelques autres toutes les théories, qui a théorisé la propagande, la fabrique du consentement et toutes ces techniques d'asservissement des masses à la consommation. Il a été contacté par le patron de Lucky Strike qui disait, mais bon, on vend beaucoup de cigarettes, c'est bien, mais on vend des cigarettes qu'aux hommes. Donc faudrait peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vendre des cigarettes aux femmes? Ce qui doublerait notre production et nos bénéfices. Et donc Édouard Bernays a eu l'idée géniale, qu'il a certainement pioché chez Tonton Sigmund, qu'il a recherché quel symbole on pouvait créer autour de la cigarette pour les femmes. Donc il y avait un symbole d'oralité évident qu'il a utilisé. Et puis surtout, on était à l'époque des suffragettes, des premiers mouvements de libération de la femme. Et donc, il a eu l'idée d'ériger la cigarette comme symbole de l'émancipation des femmes, puisqu'ils appelaient ça les torches de la liberté. Et c'est là qu'il a complètement retourné toute l'opinion publique qui était prêt à lyncher une femme qui fumait. Et il en a fait un symbole de l'indépendance, de la liberté de la femme, de la soi-disant liberté de la femme et de son affirmation par rapport aux hommes, sous la forme, on peut être les égales des hommes, puisque nous, on fume comme les hommes.
Alors vous qui avez travaillé pour la publicité, Stéphane Brangier, vous dites chapeau l'artiste ?
C'est un génie. C'est un génie absolu. Les années 20 et fin des années 20, malgré les premiers mouvements d'émancipation de la femme, les femmes qui fumaient étaient considérées comme des moins que rien, comme des traînées. Arriver à retourner une opinion publique par une opération de marketing et de communication, puisque effectivement, c'est ça, il les a fait. Un groupe de suffragettes défilait pendant la parade de Pâques à New York sur Broadway, c'était en 1929. Et donc Bernays convie ses copains journalistes pour couvrir l'événement, et ça y est, le mouvement est parti. D'où après les images de ces actrices des années 30, hyper glamour, etc. Je trouve ça absolument génial. Oui, c'est un communicant de génie, il a tout inventé.
Alors on parle aussi de pub hein, dans l'album, vous racontez l'histoire des icônes, hein. Des grandes marques de tabac, par exemple le cowboy Marlboro, hein, évidemment, c'est un peu le Lucky Luke de Marlboro. Et puis il y a aussi le chameau de Camel, sauf que c'est pas un chameau, c'est un dromadaire.
Voilà.
C'est une petite précision. Mais vous-même, Stéphane Brangier, est-ce que vous utilisez pas quand même à travers cet album les codes de la publicité? Complètement.
Bien sûr, on est bien d'accord.
Donc vous aussi, vous êtes un peu à l'image de l'industrie du tabac que vous dénoncez, un petit manipulateur.
C'est une prise de judo. On utilise les mêmes procédés et d'une certaine manière presque les mêmes arguments. C'est une nouvelle forme de psychologie inversée. On utilise leurs procédés pour les retourner contre eux.
Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopons sur les conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita.
Le tabac tu enfin m'oublieras-tu, maudite nicotine. Je suis foutu, je me suis bien battu, mais tu m'as toujours vaincu.
Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie.
C'est décidé, j'assume, déterminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette. C'est sympa de m'accompagner dans le renoncement du vice. Tout le monde m'a félicité.
voir Philippe et Maurice qui m'attendent au tournant. Encore j'irai en cachette, désespérément, craquer l'allumette. 1, 2, 3, 4, je ressens le tabac.
San Severino, Reggiani, Renaud et Aldebert dans VMDN sur RFI qui chantent l'arrêt souhaité ou réussi du tabac. Et à la fin de votre album, Pierre Boisry et Stéphane Branger, il y a un dossier qui est très axé sur les questions de santé et qui plaide clairement en faveur du sevrage avec des conseils pour y parvenir. Et puis en préface, il y a le professeur Yves Martinet. Alors présentez-nous Yves Martinet et expliquez-nous quel rôle il a joué dans la confection de cette...
Alors le professeur Yves Martinet est du CHU de Nancy est aussi
chef
le
du service de pneumologie.
Le chef du service de pneumologie évidemment est aussi le patron du CNCT, le Comité national de lutte contre le tabagisme. Tout est dit dans l'intitulé de l'organisme, hein, qui mène de nombreux combats contre l'industrie du tabac en France. Donc on a souhaité travailler avec eux pour justement avoir non seulement une caution scientifique, mais pour ne pas être pris en défaut, c'est pas vraiment le terme, mais pour pas être pris en défaut de raconter n'importe quoi dans notre album, parce que c'est vrai que j'ai manipulé énormément de sources, j'ai fait mon amalgame de tout ça, et il nous a fait une relecture avec les gens du CNCT vraiment très très précise de toutes les informations, en ajustant quelques trucs, en corrigeant quelques infos qui étaient pas tout à fait justes. Et naturellement a émergé l'idée de se dire, on peut dire quand même que pendant l'album, on se tape un gros délire avec Monsieur Nico, ça part dans tous les sens avec toutes les infos. On s'est dit, ça serait peut-être bien qu'il y ait un cahier un petit peu plus pédagogique à la fin du bouquin pour remettre tout ça dans l'ordre et remettre les pieds sur terre à tout le monde sur la réalité du tabac et surtout donner des solutions, expliquer aux gens pourquoi, c'est mieux de pas fumer et comment on peut faire pour s'en sortir.
Voilà, et vous expliquez notamment, mais même dans le corps de l'album, dans la BD en elle-même, le mécanisme de l'addiction, donc qui est dû, comme on le disait tout à l'heure, à la nicotine, et vous expliquez comment les fabricants rendent le consommateur encore plus addictif, mais aussi comment, et ça m'a énormément surpris, comment concrètement ils trichent sur les taux de nicotine grâce à des micro-trous cachés dans les filtres.
Oui, parce que quand ils font tester les cigarettes, comme l'industrie automobile faisait tester les gaz d'échappement, ils font tester ça dans des robots où ils coincent la cigarette dans des espèces de petites bouches, mais qui prennent juste le bout du filtre. Donc, quand la machine tire dessus, il y a des micro-trous dans le filtre qui vont faire que de l'air va rentrer, de l'air pur, qui vient pas de la cigarette et qui va se mélanger à la fumée de la cigarette et qui va donc faire baisser les taux de goudron et de nicotine testés par la machine. Sauf que dans la réalité, n'importe quel fumeur va mettre le filtre dans sa bouche et donc va obturer ses trous avec ses lèvres ou avec ses doigts en tenant la cigarette entre deux doigts. Et donc l'air que lui va aspirer ne sera plus du tout un mélange d'air extérieur et d'air de fumer de la cigarette qui brûle, mais uniquement de la cigarette qui brûle, donc avec des taux de goudron et de nicotine bien supérieurs à ce qui est mesuré par les machines.
Voilà, et ça encore, c'est vraiment expliqué très très simplement, hein, en l'espace de 5 ou 6 cases seulement signé Stéphane Branger. Autre étonnement, alors ça aussi, c'est très surprenant, c'est que vous dites quand même que l'industrie du tabac accompagne la contrebande. Alors pas la contrefaçon, hein, précise le personnage de Monsieur Nico, mais la contrebande.
Oui, parce que faut pas s'imaginer. Il y a une différence effectivement entre contrebande et contrefaçon. 90% environ des cigarettes de contrebande sont des cigarettes produites dans les usines des cigarettiers, comme toutes les autres cigarettes. La contrefaçon, c'est minime, ça n'existe quasiment pas. Donc ces cigarettes, ils les récupèrent bien quelque part. Il y a bien un moment où elles sortent des usines des cigarettiers et elles arrivent dans les circuits de contrebande. Donc, comme on explique dans l'album, quelle autre industrie accepterait que 12% de sa production disparaisse dans la nature et comme par hasard se retrouve sur le marché noir vendu moins cher?
Mais quel est l'intérêt alors
L'intérêt est évident, c'est-à-dire que les cigarettes de contrebande sont moins chères, donc on en achète plus, donc on fume plus, donc on devient accro à la cigarette. Et après, ça c'est une technique qu'ils ont mis au point dans les pays émergents, c'est-à-dire qu'ils font rentrer des cigarettes en contrebande, ils arrivent à capter toute une partie de la population qui va être accro à la cigarette, et puis après ils débarquent avec un circuit de vente officiel, et puis les gens ils sont déjà addicts, donc ils vont faire tourner la boutique.
Oui, d'ailleurs ce sont les pays du Sud qui aujourd'hui sont les cibles prioritaires pour les marques, puisque comme vous le dites à la toute fin de l'album, la consommation aujourd'hui s'est déplacée vers l'Asie, s'est déplacée vers l'Afrique aussi. Il y a un chiffre assez sidérant, 10% des enfants africains de 13 ans sont déjà des fumeurs réguliers.
Oui, c'est fou.
Voilà, et vous racontez, alors là encore, ça dure vraiment au détour d'une case, mais on se dit que ça mériterait presque un album à elle toute seule, cette information, quoi. Qu'on a distribué gratuitement des paquets de cigarettes aux enfants dans les années 80, dans les écoles africaines.
Exactement, dans les fêtes, les écoles,
les discothèques, les lieux fréquentés par les jeunes.
Les événements sportifs et tout, donc les cigarettes étaient distribuées, mais toutes ces techniques-là, c'est comme ça que dans les années 60 et 70, ils avaient créé leur clientèle aussi dans les pays occidentaux. Donc ils ne font que répéter tout ce qu'ils avaient mis en place auparavant dans leur nouveau marché.
Et vous dites, alors ça c'est, on arrive vraiment à la toute dernière page, genre la dernière planche et demie, on va dire, elle est sur fond noir. Hein. Mm-hmm. Ça c'est très important, Stéphane Brangier. C'est parce qu'il y a une forme de coming out, on va pas tout révéler, mais une forme de coming out de Monsieur Nico. Et qui, là, parle, on va dire, ce qu'il ressent vraiment de lui-même, au fond de lui-même. Et il y a quelques chiffres, là encore, hein, qui sont plus prospectifs. Hein. Il pourrait y avoir 1 milliard de morts du tabac au XXIe siècle, comme il y en aurait eu 100 millions au XXe siècle. Alors, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux pour terminer. À qui la faute, Stéphane Brangier?
Faites-vous votre idée.
Oui,
vous posez la question au lecteur, ce qui est une façon intéressante, interactive et habile de terminer, mais il ne faut pas que vous dédouaniez complètement, parce qu'après avoir fait ce dossier à charge,
dans le livre, on donne tous les éléments pour que chacun se fasse son opinion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, mon opinion, elle est toute faite. La faute, c'est à l'industrie. N'importe quelle autre industrie, enfin, la plupart des autres industries, sachant que leur produit est nocif, même si on découvre jour après jour que mais beaucoup d'autres industries fabriquent des choses qui sont nocives, mais là on est quasiment dans un génocide volontaire.
C'est des mots extrêmement forts, mais des génocides dont nous sommes tous complices.
Dont nous sommes
en
tous
tant
complices.
Que consommateurs, oui. Et puis en tant aussi qu'électeurs, puisque les politiques, à travers les taxes notamment, bénéficient finalement de cette drogue légale.
Oui, alors
légale.
Les taxes, l'apport d'argent via les taxes de la cigarette est plus que largement compensé, voire dépassé par les coûts en termes de santé publique. Donc dire que l'argent, que l'État, les États récupèrent de l'argent grâce à la cigarette, oui c'est vrai, mais en fait ils en perdent beaucoup à cause de la cigarette aussi, donc c'est contrebalancé, faut rétablir ça. Et puis pour faire une idée, moi je pourrais citer ce que me racontait le professeur Dittelme du CNCT aussi, et qui faisait un parallèle assez intéressant, et qui disait, regardez par exemple, en industrie automobile, un constructeur automobile sort une voiture. Et puis on se rend compte que la voiture, eh ben, elle tue une personne sur deux parce qu'il y a un vice de fabrication au sein même de sa conception. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans l'industrie automobile, on rappelle les voitures. S'ils se comportaient comme des cigarettiers, ils poseraient un petit sticker sur le tableau de bord disant « Faites attention, hein, cette voiture peut tuer éventuellement, mais on la laisse. Vous pouvez l'acheter quand même. »
Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Boisserie, merci. Stéphane Brangier. Cigarette, le dossier sans filtre, aux éditions d'Argo.
Merci.
Ils réattacheront aussi des chaînes autour de coups de gens d'autres couleurs, exploiteront des esclaves à la chaîne dans la douleur.
Les Ogres de Barbac, Pamaen sur RFI, extrait de leur nouvel album Amour Grise et Colère Rouge. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Pierre Boisserie, bonjour Stéphane Brangier.
Et c'est le premier disque studio des Ogres depuis 2014, il était donc très attendu.
De la part de cette formation qui sur scène et sur disque ne mégote pas et qui fête son quart de siècle d'existence, il était temps de se lancer dans les chansons d'amour qui nous avaient plus habitués jusque-là aux morceaux politiques, même si ce Pamaen fait référence aux attentats du Bataclan de Paris en 2015. Comment ce revirement s'est-il déclenché? Fred Burguière, auteur-compositeur et chanteur des Ogres de Barbac.
Ah bah le déclencheur, c'est deux, trois chansons qui traînaient comme ça, et à chaque fois je me disais non, on va pas mettre des chansons d'amour. Et puis finalement, après je me suis dit, ça peut être aussi un challenge un petit peu de se dire, tiens, on va les mettre, et en plus je vais en écrire d'autres. Donc je me suis lancé, Et puis ben voilà, je m'étais fixé un objectif, c'est ben, de faire écouter à mes frères et sœurs et qu'ils me disent ben, ça va, c'est pas. J'avais peur en fait moi du côté un petit peu cucu la praline des chansons d'amour. Et puis finalement ils ont dit oui. Donc ils ont, voilà, le jugement est tombé, on a mis des chansons d'amour.
Pas d'eau de rose mais de la mélancolie. Quelle était l'idée avec ces chansons d'amour et pourquoi aviez-vous une appréhension? Vous avez plus ou moins répondu à la question.
Non ben oui c'est ça, en fait moi j'ai des copains de Debout sur le Zinc qu'on écrivent des magnifiques, ben je me le sentais pas quoi, je me disais ils le font tellement, enfin il n'y a pas que, mais en tout cas voilà c'était un exemple parmi tant d'autres, c'est de me dire est-ce que moi je vais réussir justement à pas être dans le, alors évidemment je dès le début je m'étais dit je vais pas être dans le je t'aime parce que tu es belle sur la plage à mourir dans tes yeux bleus je vois l'océan, c'était plus l'image, enfin ouais des chansons d'amour imagées quoi, et du coup ben après ça m'a plutôt plu, donc je suis resté là-dedans.
Encore si, encore ça, encore si nous plaît. Seulement ceci, seulement cela, seulement si.
S'il nous plaît, les ogres de Barbac qui ne portent pas le costume trois pièces, mais dont on se réjouit de les voir une fois de plus aux côtés de la fameuse fanfare Ayonley.
Bah, c'est devenu nos frangins béninois, c'est une super rencontre parce que on arrive dans le sud-ouest de la France sur un festival des fanfares, on les rencontre, on sympathise, on se recroise une fois, deux fois, trois fois. Moi je vais chez eux au Bénin, je rencontre là-bas plein de gens, plein de musiciens, des artistes. Et là je me dis c'est incroyable ce petit pays finalement qu'on connaît pas beaucoup. Il y a une telle richesse, une culture. Et puis alors le vaudou, évidemment. Donc la fête vaudou là-bas, à chaque fois, je la fais moi tous les mois de janvier maintenant. Et du coup, ben, on les a emmenés avec nous sur les 20 ans. Ensuite, ils ont fait une tournée de leur côté. On s'est retrouvés, on est reparti là-bas. On organise maintenant un festival ensemble tous les mois de janvier là-bas, au Bénin. Et du coup, voilà, on est presque inséparables maintenant.
Alors moi, je bouge pas de là. Je t'en supplie, je fais plus un geste. Si tu restes, je te dis même pas ce qu'on fera de l'amour. Et pour le reste, même si j'ai... Je vous déteste.
Les ogres de Barbac, si tu restes avec les Béninois d'Ayonley, les ogres en tournée avec un nouveau spectacle qui passera par l'Olympia de Paris le 20 mars 2020.
Ils investiront pour la 10e fois.
Bah nous, l'Olympia, on adore. Parce que pour la petite histoire, au début, quand on a commencé à faire des salles de plus de 500 places sur Paris, on allait dans certaines salles qui sont vraiment réputées alterno rock'n'roll, et finalement on était reçus comme des merdes. Et le fait d'arriver à l'Olympia, d'être super bien reçu, de pouvoir mettre des jongleurs, on avait fait toute une espèce d'entrée un petit peu cirque avec un peintre en direct, des jongleurs. On voulait amener un cheval sur scène. Avec Bartabas. Et en fait, bon, ça s'est pas fait, même pas pour des histoires de refus de l'Olympia, juste pour des histoires d'emplacement du cheval. Donc en fait, ils étaient ouverts à toutes nos propositions, à toutes nos conneries, à toutes nos folies. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne mentalité.
C'est une chanson pour dans 2000 ans. Quand plus une femme ne sera prisonnière d'un mâle dominant.
Amour gris et colère rouge, l'album des orgres de Barbac illustré par Eric Fleury, album qui est sorti chez Irfan le label en CD, en double vinyle ou en téléchargement. Merci Alain, demain une émission sur le wax, le tissu africain et qui en réalité n'est pas africain du tout, en tout cas à la base, mais qui continue de conquérir le monde. Avec nous une spécialiste, l'anthropologue Anne Grosfilet, et vous m'en direz des nouvelles.
Quand la corruption immondice du vice, du pouvoir, de l'argent.